Alain Weinstein, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Pierre Guyotat, qui publie ses leçons sur la langue française aux éditions Léo Cher. Je n'aime pas beaucoup toutes ces idées de patrimoine, d'héritage, surtout d'héritage, mais c'est quelque chose d'inévitable. En même temps que la force de la jeunesse, il y a cet avalement, ce désir de vivre, puis de liquider ce que les précédents ont vécu. J'ai connu ça, bien entendu. J'ai toujours, du reste, cette sensation-là. Mais comme je sais que dans presque toutes les générations, les gens ont vécu de cette façon, je ne m'en étonne pas. Début de ce gros livre, Pierre Guyotat, ses leçons sur la langue française, vous vous revendiquez comme artiste, et non pas comme auteur, et encore moins comme écrivain. Artiste, ça correspond plus à ce que vous faites ?
Oui, c'est une vieille distinction que je fais depuis très longtemps déjà, mais qui est quelquefois entendue, qui est quelquefois... ne l'est pas, mais il fait très longtemps que j'ai évacué le mot écrivain, qui me paraît très réducteur, disons, parce que, comme j'expliquais souvent, j'ai l'impression, il me semble que je creuse la langue, enfin, entre les mots, etc., un peu plus que ce que le terme d'écrivain pourrait laisser entendre, si je peux dire. Écrivain, c'est une activité un peu de surface, si vous voulez. Moi, j'ai plutôt l'impression de faire une activité, non pas de sous-sol, mais enfin de relief, disons. Voilà.
Et puis, il n'y a pas que les livres dans votre vie.
Il n'y a pas que des livres, oui, il n'y a pas que les livres. Et puis, c'est un reste aussi de ce que j'ai éprouvé quand j'ai publié Tombeau, quand j'étais jeune, et que j'étais à cette époque-là dans cette disposition de penser que ce n'était même pas un livre. C'est beaucoup plus un acte qu'un livre, parce que j'étais nourri de textes qui, pour moi, ne sont jamais vraiment des livres. Oui, Rimbaud, etc., c'est pas vraiment du livre. Hein. C'est de la poésie, tout simplement. C'est du faire. Il faut revenir tout de même à ces vieilles étymologies.
Et puis vous avez été nourri beaucoup de musique, on en sait quelque chose.
De musique, etc., bien sûr.
D'architecture, de peinture.
Alors le mot artiste me convient mieux, d'une certaine façon. Auteur, bah, c'est un mot intéressant aussi, parce que, bon, très bien, c'est important ça aussi d'être l'auteur de ce que l'on fait, c'est-à-dire l'assumer. Et moi, j'ai eu beaucoup de mal même à assumer pendant un certain temps ce que j'écrivais, du moins ce que j'écrivais en langue, comme j'ai expliqué souvent, mais même tout le reste. J'ai eu beaucoup de mal, c'est beaucoup plus difficile qu'on ne le croit. Et donc le terme auteur, voilà, ça désigne cette espèce de courage qu'il faut, au fond, pour assumer, sous son propre nom aussi, ce qui n'est pas rien non plus.
Et puis d'une façon générale, il y a un mot qui vous inspire peut-être moins de réticence, c'est le mot « histoire ».
Histoire, beaucoup moins, oui.
Avec une majuscule.
Oui. Oui, du reste, dans ce gros livre, du reste, l'histoire est omniprésente. Je pense qu'on en parlera, mais comment dirais-je ? Pour moi, j'ai une conception, je n'ai jamais varié là-dessus. J'ai depuis ma 30e année, j'étais très dans cette. Disposition disons, révolutionnaire de l'art, disons, de changer les formes, etc. Et je suis resté plus qu'attaché à ça. C'est, mmh. c'est ma raison de continuer à vivre, même d'une certaine façon. Et dans cette disposition-là, dans cette idée-là, évidemment, l'histoire rentre, parce qu'on est bien obligé de connaître ce qui vous a précédé pour pouvoir soit le mettre à bas quand on est très jeune, soit pour pouvoir le contourner, le retravailler, le subvertir, comme on disait à une certaine époque. Mais enfin, je peux quand même le dire, oui. Je peux, moi, le dire quand même, de temps en temps, le dire. Voilà. Parce que plus j'avance, et plus ce que j'écris, finalement, sera, sinon subversif, disons transgressif, disons.
Ce que vous avez écrit, là, en tout cas, c'est le son sur la langue française. Oui. On fait de vous, plus qu'un artiste, un maître.
Mais dans quel sens? Un maître professeur?
Un professeur.
Un professeur, oui.
Le mot maître ne vous convient pas?
Le mot maître, vous savez, il arrive, c'est extraordinaire, dans cette étrange période, il arrive qu'on vous aborde et qu'on... Des jeunes, dirais-je souvent. Et qu'on vous appelle maître, c'est très étonnant. Mais maître, simplement, maître, on ne dit pas que vous êtes un maître, ça va de soi, mais vous on vous appelle maître, ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc,
et pas n'importe quel maître,
c'est curieux.
Un maître enseignant à l'université.
Non mais maître, le maître était adressé à l'auteur, à l'artiste. Non, là j'ai été professeur, comme j'ai expliqué, j'ai été professeur associé sans titre, je veux dire attitré, professeur associé sans titre.
Vous auriez aimé continuer?
J'aurais bien aimé continuer. Parce que c'était très bien, sur tous les plans, c'était très bien, et j'aimais beaucoup ça. Ça m'a permis aussi de revisiter, comme on dit maintenant, beaucoup d'auteurs, beaucoup de périodes, hein, d'en laisser de côté certains qui me sont très proches. Ça aussi, c'est une des étrangetés de ce livre. Mais c'est un enseignement, c'est pas une anthologie.
Racontons un peu comment ça s'est passé. C'était de 2001 à 2004, pendant 4 ans.
4 ans,
des leçons sur la langue française qu'on vous a demandé à l'université Paris 8, Saint-Denis.
Voilà.
Et
ça s'est exactement fait. C'est une initiative de Patrick Bouchard, mon ami architecte, proche de Jacques Lang, qui a eu cette idée et qui l'a proposée à Jacques Lang. Jacques Lang tout à fait accepté. Après, donc, l'idée a été transmise à l'enseignement supérieur. Et puis, il a fallu trouver un lieu pour que je puisse... Patrick Bouchain voulait que ce soit un lieu très imposant, très important. Et puis finalement, on s'est retrouvé dans un endroit, au fond, extrêmement sympathique, hein, tout à fait, dans une entité... pour le moins étrange, pour moi. Qui ne suis jamais allé à l'université.
Vous auriez préféré le Collège de France?
Non, pas du tout. Non, mais j'aurais bien aimé, par exemple, plus un lycée, ou même carrément une école primaire, parce que c'est merveilleux de pouvoir apprendre, voir lire des choses à des enfants, des adolescents. C'est beaucoup plus intéressant qu'à des jeunes déjà plus âgés, je trouve, personnellement. Oui. Enfin, moi, je le vois bien dans la pratique, si je peux dire. Donc, ça nous a été proposé, et c'était une sorte de lieu de paix et d'ordre. L'Institut d'études européennes, dirigé par Mireille Azoul, dans une espèce de fouillis, qui est cette université que je ne connaissais pas, et dans laquelle je suis allé pour la première fois, et que je traversais très rapidement, chaque fois, pour monter dans cet institut.
Et c'était presque la première fois que vous mettiez les pieds à l'université?
Oui, parce que j'y suis entré une fois en mai 68, comme tout le monde, comme badaud, si je puis dire.
Mais aussi comme l'auteur du tombeau pour 500 000 soldats.
Oui, j'ai été invité à Normal, à Sup, etc. J'ai été invité quelques fois dans l'université, mais pas tant que ça. Et puis j'y suis étudié quand même, et tout. Mais enfin, en tant que personne, je n'ai jamais... en même temps, c'est un regret, d'une certaine façon. J'ai vis-à-vis de l'institution universitaire un sentiment très double. Je suis toujours très ému quand je vais à la cité universitaire, c'est un beau lieu que j'aime bien, pour marcher. Et je suis toujours très ému. Je pense que j'aurais été, ma vie aurait été changée si j'avais pu y habiter à l'âge où il le fallait. Voilà, j'aurais pu rencontrer d'autres, j'aurais eu un développement différent, moins, peut-être moins convulsif, moins, etc. Et en même temps, vous voyez, je suis allé l'an dernier, j'ai été invité à Berkeley pour faire une lecture, etc., un truc, Berkeley donc à San Francisco, et j'ai été saisi par la beauté du lieu, etc., et en même temps j'ai été très révolté aussi par cette splendeur, cette aisance, tout ce qui est offert aux étudiants qui le payent, dont certains le payent de leur travail, il faut bien le dire, mais enfin... Cette espèce d'enceinte utopique au milieu tout de même de quelque chose qui laisse à désirer quand même. Les environs de San Francisco, c'est pas... Même San Francisco, c'est pas ce qu'on croit. Donc je reste encore très égalitaire, il n'y a rien à faire. Je reste très français pour ça. C'est un principe, c'est une chose que j'ai vraiment tout à fait... avalé, je ne sais pas comment, en tout cas c'est... C'est très fort pour moi. Donc je suis très... Voilà, l'université, toute cette facilité offerte à une certaine jeunesse, si vous voulez, alors que...
C'est une facilité
alors
vous
que beaucoup
n'avez
d'une
pas...
autre, beaucoup du reste de la jeunesse, on n'a pas accès à ça, malgré tout.
Vous n'avez pas eu accès à ça.
Ben, moi, je n'ai pas eu accès, je ne l'ai pas d'abord, je ne l'ai pas voulu. Je ne l'ai pas voulu, je ne voulais pas faire ce cursus. Vous savez, j'ai commencé à écrire tôt. Donc, entrer à l'université alors que j'avais déjà fait déjà un début d'évolution, même dans ce que j'écrivais. J'avais déjà vécu toute cette évolution, disons, depuis le premier poème jusqu'à quelque chose d'un peu plus soutenu, avec même de la prose qui a été publiée, du reste. Bon. Donc, je trouvais tout à fait inutile, et je voulais gagner ma vie, surtout, voilà. Et de toute façon, je n'aurais peut-être pas pu, parce que, contrairement à ce qu'on croit... Mon père n'avait pas les moyens non plus de me payer l'université, avec tout ce qui va avec, à Paris. Oui.
Alors pas étudiant, mais vous avez été écolier, élève, même au petit séminaire, vous le racontez au début.
Une sorte de pré-séminaire,
années là merveilleuses, même si...
Extrêmement rudes.
Très rudes.
Moi je les ai vécues comme rudes, mais en même temps comme... extrêmement, intensément poétique, intensément nutritive, même si on ne mangeait rien.
Vous étiez dans la nature.
C'est dans la nature, voilà. Et voilà. Bon, il faut avoir, évidemment, pour accepter ça, il faut avoir un naturel relativement aimant et joyeux, et transformant, disons. Et je pense que j'avais ce naturel-là.
Rétrospectivement, vous pensez avoir connu un enseignement d'un autre temps, à peu près semblable à celui d'Agrippa d'Aubigné, c'est ce que vous racontez dans les leçons.
Oui, je dis ça, parce que j'ai aussi parlé aussi beaucoup avec mes grands-parents, enfin mon grand-père et mon père, et ils avaient un enseignement qui n'était pas très éloigné de ce qu'ont connu tous nos grands classiques, finalement. Avec simplement un changement de dictionnaire. Hugo avait le Moréri, le magnifique Moréri, que nous avions dans une maison... familial dans le Dauphiné, un grand dictionnaire du 18e, et nous avions le Larousse ou je ne sais quoi d'autre. C'était un peu moins bien, c'était plus précis, plus encyclopédique, mais c'était moins bien écrit, etc. C'est déjà la langue du 19e. Mais au fond, l'enseignement n'était pas tellement éloigné, si vous voulez.
Et vous aviez des distractions, la traduction du grec et du latin.
Voilà, c'était des grandes... c'était des distractions... comment dirais-je, enfin, pédagogique, mais hautement pédagogique. On avait le thème latin du dimanche, le thème grec du dimanche matin, c'est très spécial quand même. Après la messe et entre la messe et l'ersatz de déjeuner qu'on nous proposait, c'était évidemment un peu dur, quoi. Mais le thème grec, c'est très dur.
Vous appreniez beaucoup d'histoire ?
Oui, beaucoup d'histoire.
Et dehors, vous mimiez les...
D'une façon très, très imagée aussi, oui, très imagée. Et comme il n'y avait pas très peu de cinéma, on avait peut-être 3 séances de cinéma, on allait à 3 séances de cinéma dans le village d'à côté. Il fallait y aller l'hiver dans la neige, le terrain de la glace et tout. Et l'été, bon, on y allait comme ça en bande, c'était très sympathique, mais on voyait 3 films. Donc on n'avait aucun, au fond, rien ne venait court-circuiter cet enseignement de base. Il y avait des petites projections de temps en temps, mais de vue fixe. Oui.
C'était l'âge d'or de l'imagination.
L'âge d'or d'imagination, tout à fait. Moi, je pense que l'imagination n'est pas morte, hein. Mais si vous voulez, ce qui semble s'être perdu, c'est dans la critique ou dans beaucoup d'autres secteurs culturels, c'est l'idée qu'un artiste travaille avec son imagination, si vous voulez. Il faut qu'un artiste ait vécu absolument maintenant tout ce qu'il raconte, tout ce dont il fait le récit. Mmh. L'idée qu'on puisse... Je sais quelque chose, parce que moi, on m'a attribué toutes sortes de turpitudes, étant donné ce que j'écris, mais j'ai tout simplement beaucoup d'imagination. Ouais. C'est très simple. Et l'imagination, c'est quelque chose...
Mais pas seulement de l'imagination.
C'est l'exercice de la logique, l'imagination. Ouais. C'est pas quelque chose qui part comme ça. Non, c'est la logique, c'est la déduction.
C'est dans ces années-là que vous avez rencontré aussi cette histoire dont nous parlions avec son grand H. Et vous dites qu'aujourd'hui, vous ne faites que continuer ce que vous faisiez à cette époque, c'est-à-dire mettre ensemble des mots, des rythmes, des images.
Oui. Par rapport à l'histoire, c'est ça. Oui. Je ne sais pas si...
Comme vous le faites dans Progéniture, par exemple.
Oui. Mais mes images sont tout de même très, très éloignées de... C'est tout de même de la contre-histoire, je pense. Je suis sans doute... Je pense que ce que je fais est à la fois une construction qui demande beaucoup d'énergie et beaucoup de... C'est très difficile. Mais en même temps, c'est un délassement de quelque chose qui est sans doute chez moi une obsession permanente qui est l'histoire.
Voilà. Mmh. C'est un enlacement de la langue et de l'histoire.
Oui, mais l'histoire est assez absente quand même de... Je crois. Elle l'est, je ne sais pas comment. En tout cas, j'ai l'impression de travailler sous l'histoire, si vous voulez. Je fais un peu du surréalisme. Comme on a dit, le surréalisme, je suis plutôt en dessous, moi, des choses. Donc de l'histoire, si vous voulez. Comme le surréalisme était aussi au-dessus de l'histoire, tout de même. Hein. C'était le rêve au-dessus de l'histoire. Moi, c'est dessous, d'une certaine façon, je pense.
Vos étudiants de Paris 8, Pierre Guyotat,
oui.
Il vous est arrivé de lire la Bible.
Oui, bien sûr.
Un extrait d'Ézéchiel, par exemple.
Oui.
C'est-à-dire qui renvoie à un monde d'avant l'histoire.
D'avant l'histoire, oui. Enfin, supposé d'avant l'histoire. Parce que, en fait, nous, quand nous sommes enfants, nous le voyons, ce monde-là, le monde de la Bible, parce que nous l'apprenons dans l'enseignement catholique, contrairement à ce qu'on croit. Donc, si vous voulez, c'était un monde qui était antéhistorique. Et c'est progressivement que j'ai réintégré la Bible, enfin les récits de la Bible, dans l'histoire. Et même maintenant, dans l'histoire mythique, si vous voulez. Mais c'est vrai que ça vient assez tard, cette chose-là, si vous voulez. Même les livres des rois, hein, les Maccabées, tout ça, etc. C'est tellement, comme c'est l'histoire du peuple juif, c'est l'histoire d'un peuple qui est en communication directe. Avec Dieu, donc forcément...
C'est l'homme absolument
Dieu,
cru,
ça n'est pas l'histoire.
Comme vous dites, hein, c'est l'homme absolument cru avec son Dieu.
Oui, c'est ça. C'est pas l'histoire. Même Dieu, oui. L'histoire, c'est... Enfin, on peut faire toutes sortes de définitions de l'histoire par rapport à Dieu. Je ne m'y risquerai pas. Mais donc, si vous voulez, c'est au fond assez tardivement que la Bible rentre dans l'histoire. Parce qu'on pense, quand on est assez jeune, qu'on est... D'abord, c'est enseigné différemment. C'est dans l'enseignement religieux, la Bible. Hein.
Ouais.
Bah, c'est ce qu'on appelle la Bible. Même le Nouveau Testament. Et même le Nouveau Testament, si le Nouveau Testament, on entend l'histoire avec ça. Mais avant, même tout de suite avant, si je puis dire, les quelques minutes avant, on est encore dans ce qu'on prend très longtemps pour... une histoire, non pas forcément mythique, mais quelque chose d'autre. Mmh. D'autre.
C'est-à-dire qu'il y a des faits historiques très importants qui sont hors de l'histoire.
Hein?
Il y a des faits historiques hors de l'histoire.
Voilà. Il peut y avoir. Voilà. C'est après qu'on les replace. Et c'est une opération très simple. Il n'y a qu'à les replacer. Il n'y a qu'à replacer Ézéchiel et tout le monde dans les mettre dans l'histoire qu'on connaît, à savoir l'histoire grecque, l'histoire romaine, la mettre pas dans cette histoire, mais à côté. Donc les dates, on voit les dates correspondantes, et on voit que c'est de l'histoire à ce moment-là.
Mais là, à ce moment-là. Pierre Guyotin, je remarque que ce texte du VIe siècle avant Jésus-Christ, vous le citez à vos étudiants dans une langue contemporaine, c'est-à-dire dans la traduction de Marianne Alphand.
Oui, bien sûr. Oui, mais justement, c'est aussi la parution de cette Bible, une Bible traduite par des écrivains, à l'aide évidemment de traducteurs, bon, bien entendu.
Chez Bayard,
oui. Oui, chez... Très bien, ouais.
Oui, chez Bayard.
Oui. Chez Bayard, voilà, Bayard, oui. Bayard, c'est ça.
Il a repris en volume.
Il m'a incité à... Au fond, c'était très bien, c'était une très bonne opportunité pour pouvoir à la fois, comment dirais-je, faire de l'histoire, faire de l'histoire religieuse, faire de l'histoire littéraire de notre façon aussi. C'était parfait. Mais j'ai choisi Ézéchiel, qui me paraît un des plus frappants, enfin, les plus originaux qui soient. Hein. C'est rare dans des textes, dans l'histoire du monde, des textes de ce genre, des textes aussi qu'on peut considérer comme presque comme fous, hein, comme beaucoup de textes de la Bible du reste, ou sur la folie, ou ayant la folie en eux. Hein, d'une façon. C'est ça qui fait la splendeur aussi de ce livre. C'est ce qu'on ne voit pas assez, je trouve. Hein. C'est que c'est les grands textes de la Bible, hormis évidemment la Genèse, etc., les textes, mais les textes prophétiques sont faits par des gens qui, en tout cas, qui sont frappés quand même de quelque chose.
Mais la langue,
folie, oui.
La langue française, ça commence un peu plus tard.
Oui.
Au 8e siècle.
Au 8e siècle, voilà.
Vous êtes bien documenté, hein.
Oh ben, c'est des choses qu'on sait quand même, qu'on apprend, je ne sais pas si on apprend toujours au lycée, mais on apprenait au collège en tout cas. Mmh. Quand tu viens de Sainte-Eulalie, on apprenait, mais on apprenait avant. Je l'ai même apprise dans cette petite école.
Le serment de Strasbourg, tout ça.
Mais parce que c'est aussi lié à l'histoire. C'est la séparation tellement importante après-guerre, vous imaginez, en 49, la séparation du monde futurement français et du monde, hélas, germanique, si je peux dire. Donc c'est très important comme date, comme texte, bien entendu. Mmh. Après, bien sûr, on revient là-dessus, et on recouvre tout ça d'ambiguïté, bien entendu. Mais c'est un moment très beau, parce que ce sont deux rois, deux cinglés qui se retrouvent, et qui, dans un tout petit village de Sardaigne, ou je ne sais quoi, et qui font ça. C'est très étonnant. On peut donc décrire tout ça. Ça ne s'est pas fait dans un... Ça s'est pas fait dans un couvent, ça s'est fait dans un village.
Comment ça se passait, ces cours? Vous veniez avec des notes?
Je venais avec des notes, mais je ne les ai jamais utilisées. Elles sont absolument toutes vierges, ces notes. J'avais un programme que je n'utilisais pas, mais je venais avec une série de livres que je mettais devant moi et qui faisaient une espèce de pas de mur, mais presque, entre eux et moi. Et
Vous étiez nombreux?
Je piochais là-dedans.
Hein? Vous aviez beaucoup d'étudiants?
Assez peu. J'en ai eu beaucoup au début, puis après, bon, c'est un peu plus difficile. Mmh. Mais ils étaient très, très, très mordus, très intéressants. C'est des étudiants en grande majorité. Hein. Donc il faut avoir toujours ça à l'esprit, si vous voulez, quand on lit ce livre, évidemment. Ce livre, c'est un compromis. Hein. Pas du tout la prétention de faire de la critique littéraire, ça ne m'intéresse pas. J'ai voulu faire comprendre à des jeunes filles de l'étranger, comme on dit, c'est comme ça, russe ou tchèque ou autre, que ce qu'était, enfin ce que pouvait être une sensibilité française, disons. Oui.
Et vous pensez que les jeunes gens ne peuvent pas l'entendre?
Si. Mais vous savez, on peut tout expliquer à des jeunes gens. Il suffit de les intéresser et surtout de s'amuser aussi un peu.
Alors vous faisiez des lectures que vous aviez choisies,
voilà,
et puis des commentaires.
Des commentaires. Pour moi, c'était des lectures commentées. C'était pas du tout un cours magistral, ni rien du tout. C'était des lectures commentées. Parce que je trouve que c'est beaucoup mieux de partir des fêtes, si je peux dire. Et puis, au fond, c'était une improvisation. Parce qu'à chaque fois, ces textes que j'avais préparés d'une certaine façon, je les commenter après d'une autre, si vous voulez. Parce que je suis un artiste, comme on dit. Quand je lis quelque chose, je ne le lis jamais de la même façon. Je découvre quelque chose, mon humeur a changé, etc. En allant à l'université depuis chez moi, j'ai vu des choses qui... etc. Il y a les événements politiques aussi qui sont importants et qui modifient ce que vous allez lire. Non seulement ce que vous allez lire, peut-être, la quantité, mais aussi la façon dont vous allez les interpréter. C'est comme ça. Je ne suis pas professeur du tout pour ça, justement.
Comment vous aviez organisé ces cours ? Il y avait un scénario, l'ordre chronologique ?
Il y avait un scénario que... Ah oui, vous voulez dire les cours, enfin, le... Oui, moi j'ai pris le... Sauf pour la grosse séance du début, la première séance qui était très chargée, où il y avait énormément de monde, et c'était très chargé, ça a duré 3-4 heures, je crois, et où il y avait Flavius Joseph, Roland de Lassus, la Chine, enfin bref, tout ça, même, je crois, Tertullien... Sinon, c'était vraiment chronologique. J'ai voulu repartir. Donc, je suis parti des Romains. Je suis parti de la Bible, bien entendu. Des Romains, les Grecs. Non, il n'y a pas de Grecs, c'est curieux, il me semble. Pas de Grecs. Enfin, j'en parle de temps en temps. Tant les Grecs ont été très formateurs. Mais c'est un compromis entre ce que j'ai, moi, ce que j'ai appris, ce que je pense qu'on peut expliquer à des jeunes aujourd'hui, et ce que j'éprouve vis-à-vis de ces textes. Hein. C'est pas un cours.
Je pense que les jeunes filles ont dû être particulièrement sensibles aux commentaires que vous avez pu faire du premier texte, ou plutôt du plus ancien, proprement littéraire, de la langue française, c'est-à-dire la Cantilène de Sainte-Eulalie.
Bien sûr.
Histoire d'une vierge martyre.
Une vierge martyre, bien entendu. Alors, je ne peux pas vous dire ce qu'elles ont éprouvé à ce moment-là, mais le texte est suffisamment beau dans sa naïveté, dans sa gaucherie, de toute façon, dans son immédiateté. Mais je ne sais pas ce que ça provoque. Je ne sais pas. Ce que ça peut provoquer.
Et le texte...
Mais j'ai beaucoup regardé. Ça m'a permis de beaucoup regarder des jeunes filles, parce que je regardais beaucoup, quand même. Avant, pendant et après. Je regardais beaucoup ce qui se passait, comment elles éprouvaient, comment elles pouvaient même rougir par moments. Mais je n'ai pas cherché à les faire rougir. J'aurais pu. J'avais tout, on a tout ce qu'il faut dans la littérature française et les autres pour faire rougir. Je n'ai même pas utilisé ce que j'écris pour le faire. Car je me suis bien fixé de ne jamais parler de moi, de ce que je fais.
Ouais.
Alors qu'au départ, c'était prévu. Comme ça, je devais faire des cours sur moi.
Bon. Le sujet était trop difficile.
Le sujet est trop difficile et puis sans intérêt.
Est-ce qu'en fouillant les textes anciens, comme vous avez dû le faire pour préparer vos cours, vous avez fait des découvertes ?
Mais je n'ai fait que redécouvrir, parce que j'ai même laissé de côté des choses qui me sont plus chères encore que celles que j'ai. J'ai beaucoup redécouvert, j'ai pas tellement découvert. Vous voyez, le poème de Christine de Pizan, par exemple. On voit bien aussi que les textes sont choisis en fonction de ce qu'ils peuvent, fournir d'histoire, hein, de rapport à l'histoire. Et l'histoire, pour moi, ce n'est pas uniquement l'histoire factuelle. C'est les lois, ce sont les lois, les traités, les lois, c'est très important, les lois. D'où ce grand passage merveilleux de Gibbon sur la législation byzantine, où je vois dans la façon... Je ne sais pas, c'est une législation de justice. Et dans l'énoncé de j'ai lu cette chose parce que c'est vraiment, comme j'ai expliqué, c'est un espèce d'énoncé de ce que doit être la fiction. C'est formidable. La façon de nommer les faits, nommer les sentiments, nommer les choses, etc., c'est dans ce texte. Et on peut l'utiliser pour... faire un cours sur la fiction. C'est pour ça que je l'ai lu. Ça, c'est peu connu, si vous voulez. Gibbon, on connaît, bon, les fêtes, mais des choses de ce genre, l'étude des lois. Donc j'ai pris vraiment, par exemple, s'agissant de Christine de Pizan, qui est un auteur que j'aime bien, et dont la figure m'est très, très chère depuis très longtemps, j'ai pris le poème sur Jeanne d'Arc, qui est très, très peu connu, parce que Christine de Pizan, c'est tout à fait autre chose, mais voilà, parce que c'est Jeanne d'Arc, parce que c'est l'histoire.
tout au long de
ces... Car c'est l'histoire, Jeanne d'Arc, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire entendre aujourd'hui.
Tout au long de ces 23 leçons, Pierre Guyotat, sur la langue française, le thème qui m'a paru revenir le plus souvent,
oui,
c'est celui de la simplicité.
La simplicité, c'est-à-dire dans le sens du...
Vous n'avez fait entendre que des textes simples.
Simples, oui. Mais parce que je trouve que la littérature française est une littérature simple, claire, au fond, je trouve.
Ouais, pas de discours abstrait.
Non, pas de discours, pas de trop de... Pas de pathos, pas d'analyse inutile ou de descente... De descendre dans une profondeur qui n'existe peut-être pas, je ne sais pas. C'est assez clair. En général, hein, Montaigne étant un des plus analytiques, c'est pour ça qu'on ne l'aime pas quand on est adolescent. Il n'est pas assez immédiat. Après, évidemment, on le découvre, et c'est une merveille. Mais, oui. Enfin, simple, je ne sais pas. Pas simple sur le plan musical. Un violon, c'est extraordinaire, évidemment. C'est dommage que les lectures elles-mêmes ne soient pas dans ce volume. On ne peut pas tout mettre. Il y en aura quelques-unes qui seront publiées ultérieurement, en CD, je crois, en DVD. Mais c'est évident que ces cours, enfin, ces lectures, c'était aussi une certaine inflexion, si vous voulez.
C'est une promenade personnelle, voilà, comme vous le dites. Et c'est certainement pas une histoire de la littérature française, mais, comme le titre l'indique, une histoire de la langue.
De la langue française, oui.
Maintenant, l'histoire de la littérature reste à faire.
Oui, l'histoire de la littérature reste à faire, oui. Mais j'ai quand même effleuré tout ça, tout de même, hein, dans le... Et même, j'ai même pas fait même une histoire de la langue, hein. C'est pas... Langue française, le mot était... Bon, le titre a été choisi comme ça, mais... En fait, le son, c'est lectio, tout simplement. Lecture. Lecture, hein, Je vous dis, c'est un compromis. J'ai voulu rendre simple l'accès au passé. Voilà.
Leçon sur la langue française. Le livre de Pierre Guyotat est publié chez Léo Cher. Du jour au lendemain, Jean-Richard Dufour, Anne Franchini, Didier Pinault, Alain Weinstein, bonsoir.